un communiqué spécial en direct des apatrides anonymes. Oui, bienvenue à cette édition du 6 mai. Et oui, exceptionnellement, les apatrides anonymes à choc.ca. On est là ce vendredi à 20h30 puisque les studios n'étaient pas accessibles cette semaine pour cause de travaux. C'est rendu qu'il y a des cons oranges dans l'UQAM. Écoutez, les apatrides anonymes, votre rendez-vous bimensuel pour un regard alternatif sur les actualités nationales et internationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers, aux questions autochtones. Mais on vous parle aussi de régimes totalitaires et de droits humains, parfois. Donc, Marie-Ève au micro. Non, ce n'est ni Simon ni Mathieu qui sont avec moi, évidemment, en studio.
Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir à vous deux. Simon qui est à la console.
Salut, allô, allô.
Alors, on va vous retrouver les deux plus tard. Au programme, donc, aujourd'hui, une mise à jour sur les réfugiés afghans et ukrainiens au Canada. On va faire le tour également des actualités européennes et internationales avec Simon, qui va aussi nous parler de quelques cas de racisme ordinaire et systémique.
Très ordinaire.
Très ordinaire. Et avec Mathieu, on va aussi se pencher sur le sort des réfugiés rwandais au Royaume-Uni, mais aussi sur celui des travailleurs, des travailleuses, plus particulièrement domestiques ici, et du manque d'accès au CPE pour les demandeurs d'asile.
Oui, au Québec.
Oui, ici, au Québec. Et enfin, on va aussi avoir quelques nouvelles sur différents corps policiers au Canada. Alors, si Simon est prêt à mettre quelques notes de musique, on commence ça dans quelques secondes. Alors, on commence notre émission avec une mise à jour sur l'Ukraine, où le nombre de personnes qui ont fui le pays frôle désormais les 5,4 millions de personnes. Ce sont les derniers chiffres publiés par le HCR. Et donc, il y a près de 7,1 millions de personnes qui ont quitté leur foyer, mais qui se trouvent toujours en Ukraine. À ces réfugiés ukrainiens-là s'ajoutent les plus de 218 000 non-ukrainiens qui ont également quitté le pays. C'est selon l'OIM. La Pologne, elle, a accueilli 6 réfugiés sur 10. Quand même, c'est près de 3 millions de personnes, dont beaucoup sont en transit, c'est-à-dire qu'elles poursuivent ensuite leur route vers d'autres pays européens. Avant la guerre, juste pour vous donner une idée, l'Ukraine avait... Il y avait environ 1,5 million d'Ukrainiens qui vivaient déjà en Pologne, principalement des travailleurs, travailleuses migrantes. Le deuxième pays à accueillir le plus de réfugiés ukrainiens, c'est la Roumanie, avec un peu plus de 750 000 personnes. Et suivent la Hongrie et la Moldavie, avec chacun plus de 400 000 réfugiés. Mais plus surprenant, c'est que des milliers d'Ukrainiens, Ukrainiennes, ont quitté le pays pour la Russie et la Biélorussie, qui sont alliés dans cette guerre-là. Toujours selon le HCR, le nombre de réfugiés en Russie s'élevait à près de 1,5 million au 19 avril, alors que près de 24 000 Ukrainiens et Ukrainiennes avaient trouvé refuge en Biélorussie. Et si on revient ici au Canada, qui a mis sur pied, le pays a mis sur pied un processus accéléré pour accueillir les réfugiés ukrainiens, processus qui s'appelle l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, l'AVUQ. C'est bien ça. 181 000 personnes ont présenté une demande jusqu'à maintenant dans ce programme-là. C'est plus de 70 000 dossiers qui ont déjà été approuvés. C'est les chiffres que j'ai lus hier. Et là-dessus, environ 12 000 personnes seraient déjà arrivées. Mais ça, ces chiffres-là, les 12 000 personnes, ça date d'une semaine et demie à peu près. J'ai pas trouvé de chiffres plus à jour. Faut savoir que le Canada promet depuis le début avril d'organiser des vols nolisés, ce qui s'est toujours pas concrétisé. Le gouvernement, c'est assez particulier, a pour l'instant mis sur pied ce qu'il appelle le fonds Ukraine Canada, OK, qui est basé sur un partenariat avec Air Canada, imaginez-vous donc. Mm-hmm. Et les organisations Miles for Migrants et la fondation Shapiro. En fait, tout ça ça le dit un peu pour Miles from Argon, ça le dit un peu. Tout ça est basé sur les points Air Miles.
Ben oui.
Donc, les personnes, les entreprises qui souhaitent faire un don sont invitées à le faire avec leurs points Aéroplan. Pardon, Aéroplan.
Ben oui.
Air Canada a fait un don de 100 millions de points Aéroplan et la Fondation Shapiro s'engage à égaler les contributions faites par les Canadiens et Canadiennes jusqu'à hauteur de 50 millions de points.
Aïe, aïe,
quand c'est
ça,
rendu, c'est vraiment débile. L'objectif, en fait, c'est de permettre à au moins 10 000 Ukrainiens, Ukrainiennes et leurs familles de gagner le pays.
Gratuitement.
Oui, ah, gratuitement. Oui. Je termine en revenant sur ce programme-là, la VUQ, c'est que ce programme permet donc aux réfugiés ukrainiens et ukrainiennes de rester au Canada pendant 3 ans et d'obtenir un permis de travail temporaire ou un permis d'études. Les personnes qui arrivent par l'entremise de ce programme peuvent aussi obtenir un soutien aux revenus de 500 $ par semaine qui peut leur être fourni jusqu'à pendant 6 semaines au besoin. Et à leur arrivée, ben, des chambres d'hôtel temporaires peuvent aussi leur être proposées pour une durée de 2 semaines, le temps qu'ils se trouvent quelque chose entre deux refuges puis quelques points Aéroplan. Mmh. Mais le programme est encore jugé trop complexe, principalement parce que il repose en fait sur l'obligation de fournir des données biométriques. En temps de guerre, c'est pas évident. Même si cette obligation-là a été levée pour les moins de 18 ans, les plus de 60 ans et pour les personnes dont un visa vers le Canada avait déjà été approuvé par le passé, le nombre élevé de personnes qui tentent leur chance, en fait, cause des heures interminables d'attente, soit à l'ambassade canadienne ou au centre de réception des demandes de visa de la capitale polonaise qui est accréditée par Ottawa pour enregistrer les données biométriques. Donc, plusieurs cafouillages qu'on va suivre aussi dans les prochaines semaines. Et Mathieu, toi, tu nous parles des réfugiés afghans, quant à toi, qui sont arrivés au Canada, c'est ça?
Oui, d'ailleurs, tu m'as scoopé un peu pour une couple de trucs, parce que je voulais faire des comparatifs avec les Ukrainiens, mais il n'y a pas de problème. on voit qu'on travaille sur les mêmes sujets, c'est tout à fait normal. Les réfugiés afghans, c'est encore plus difficile pour eux, les difficultés, les tracasseries, les obstacles, le silence des autorités, assez compliqué. Un exemple parmi d'autres, je vous lis l'extrait d'un article. Québec leur avait dit que le débarquement de leurs proches, des réfugiés, était imminent. Dans l'urgence, ils ont loué un appartement afin que tout soit prêt pour leur arrivée. Et ils attendent encore, sans savoir pourquoi et sans réussir à obtenir d'explications de la part des autorités responsables des programmes d'accueil. 7 mois plus tard, le gouvernement fédéral n'a toujours pas donné à la famille l'autorisation finale de venir au pays. Selon l'Association éducative transculturelle, il serait même une trentaine de familles à Sherbrooke en attente de réponse pour leurs proches qui étaient supposés arriver à l'automne dernier.
Je voulais juste mentionner, les logements, ça coûte pas trop cher, donc c'est pas si grave que ça.
Non, c'est vrai, c'est juste 500
vides,
par mois.
C'est très pratique.
Mais ils peuvent les payer par avec des points Aéroplan, eux autres aussi.
Ah, c'est plus pratique. Hein? Bon.
Justin Trudeau a déclaré il y a 2 semaines que les circonstances en Afghanistan étaient déchirantes, mais il a admis que le Canada était confronté à d'importants défis dans le traitement des réfugiés qui tentent de fuir ce pays. On rappelle que le gouvernement a promis de réinstaller 40 000 réfugiés afghans au Canada. Je vais vous dire le chiffre tantôt à jour. Autre élément dans ce dossier, c'est un extrait d'un article. Ce qui a débuté comme une campagne de financement devant durer 30 jours pour venir en aide aux interprètes afghans fuyant les talibans s'est transformé en une opération douloureuse, chaotique et frustrante qui aura duré 8 mois pour le réseau de transition des vétérans. Son directeur général estime qu'il est temps de mettre fin à cette opération qui devait durer 30 jours. Je le cite, les choses ont en quelque sorte évolué d'une crise d'évacuation d'urgence en une opération de migration à long terme. Ouais. Évidemment, c'est un groupe, c'est une association, c'est pas le gouvernement. Plusieurs personnes déclarent que les obstacles bureaucratiques pour obtenir les documents appropriés causent un goulot d'étranglement. Il y aurait environ 700 Afghans, juste des interprètes, entre autres admissibles pour venir au Canada, qui sont bloqués au Pakistan parce qu'ils n'ont pas de visa de sortie de ce pays, parce qu'il n'y a pas eu d'entente avec le Canada. Mmh. La bureaucratie fédérale crée des obstacles majeurs pour les personnes qui ont dû brûler bon nombre de leurs documents pour éviter d'être ciblées en Afghanistan. Plusieurs de leurs demandes auprès du gouvernement n'ont jamais eu de réponse. Des sanctions interdisent aux Canadiens de déposer de l'argent en Afghanistan actuellement. Donc, dans une lettre ouverte, 9 organisations humanitaires, y compris la Croix-Rouge, ont plaidé auprès du gouvernement pour qu'il modifie sa position en mentionnant que d'autres États avaient exempté les groupes humanitaires de leurs sanctions pour qu'ils puissent payer des gens là-bas pour aider des gens. Un autre exemple, la famille d'Adis Afghanfar, qui a 10 ans. Celui-ci a réussi à prendre place dans un avion à l'aéroport de Kaboul il y a 8 mois. Il s'est finalement rendu à Toronto où il habite avec ses grands-parents. Ses parents ne sont toujours pas arrivés au Canada. La consultante en immigration qui aide la famille à se réunir au pays affirme que tous les membres ont déjà rempli les documents obligatoires, ce qui comprend les empreintes digitales et les images rétiniennes obligatoires. Non, c'est ça. Elle ajoute qu'Immigration Canada a répondu que la demande avait été mise en attente. Actuellement, il y a combien sur 40 000 qui sont arrivés?
Oh, moi, je dirais moins que la moitié.
11 500 ah, en date ça. De la fin avril.
Je pense que ça stagne à 11 500 depuis plusieurs mois. Il me semble
c'est
qu'on
à
200-300
fait... par semaine. Si on fait le... J'ai comparé différents articles. Là, c'est peut-être 200 par semaine qui arrivent. Donc, évidemment, c'est un peu inévitable. Le nombre d'Ukrainiens qui sont arrivés au Canada en 3 mois et demi est maintenant supérieur au nombre de réfugiés afghans qui ont foulé le sol canadien en 8 mois. Mm. Un contraste qui dérange beaucoup de personnes. Le gouvernement Trudeau a opté pour une série de mesures spéciales pour les Ukrainiens, t'en as nommé déjà, une autorisation de voyage d'urgence, lever pour certains groupes l'obligation de fournir des données biométriques.
Ouais, 3 groupes de personnes, ouais.
Et en analysant des vols vers le Canada, entre autres.
Ce qui est pas fait, hein?
Non, on en a pas vu arriver encore à Dorval.
Ils partiraient d'où ces vols-là? Ils partiraient d'Afghanistan ou des endroits où les réfugiés sont actuellement?
Non, on parle de l'Ukraine.
Non, les
là.
Vols non-lisés, okay. C'est pour l'Ukraine, ouais. Ouais, non. Ouais.
Le Canada a décidé de faciliter les choses pour les Ukrainiens. On n'a pas vu le même effort pour trouver des solutions qui tiennent compte de la réalité en Afghanistan, selon une avocate spécialisée en immigration. En terminant, Marie-Ève, pour le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, le goulot d'étranglement n'est pas causé par la capacité de traitement du gouvernement. Ce sont les facteurs situationnels et environnementaux en Afghanistan qui en sont la cause. Et il a rappelé que finalement... il a annoncé qu'il visait l'année prochaine, 2023, pour l'objectif de 40 000 personnes. Donc, finalement, il y a 5 615 Afghans arrivés dans le cadre du programme spécial d'immigration pour les Afghans qui ont aidé le gouvernement, interprètes, employés de l'ambassade. Donc, à peu près 5 600 sur 11 500. Et il y a 119 409 autorisations de voyage d'urgence pour venir au Canada depuis l'Ukraine, qui ont été approuvés, 31 895 qui ont été déposés, 119 000 et 31 895 qui ont été approuvés. Tout le monde n'est pas arrivé ici, évidemment. Donc, quand même, c'est le fun de comparer aussi, puis ça complète un peu ce que tu disais sur les Ukrainiens. Mais pour les Afghans, c'est vraiment terrible, là.
Oui, mais ce que je remarque aussi, par exemple, c'est que ça, j'en ai un peu moins parlé, mais ce que je remarque, c'est que les raisons qui sont données par le gouvernement fédéral pour expliquer le fait que ce soit long puis tout ça, ce sont les mêmes pour les réfugiés afghans que pour les réfugiés ukrainiens. C'est-à-dire que c'est jamais la faute, c'est jamais celle de la bureaucratie canadienne ou...
De la confusion,
ou le fait d'imposer des affaires comme des données biométriques qui est comme je disais, en temps de guerre, c'est un peu débile. C'est pas à cause de ça, c'est juste parce que c'est confus sur le terrain. Puis, par exemple, dans le cas des Ukrainiens, pour expliquer le fait que les vols non-lisés soient pas encore concrétisés, le gouvernement dit que, ben là, comme les Ukrainiens sont éparpillés partout sur le territoire puis dans d'autres pays, ben là, de nulliser, de les rapatrier à un endroit, c'est compliqué. Puis, ouais, mais c'est parce que c'est ça, une guerre.
Les Afghans fuient aussi une guerre, un pays en guerre et un pays qui vient de changer de régime. Donc, c'est aussi compliqué, évidemment. Puis les pays autour, c'est encore plus compliqué que pour les Ukrainiens aussi, ouais. En plus.
Simon, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais tu disais qu'ils sont éparpillés, mais il y a quand même des endroits où il y a une masse de réfugiés ukrainiens. Là. Donc, ce serait possible de nominiser à partir de Varsovie, par exemple, ou à partir de...
Ben oui, c'est
villes.
Ça.
Mais bon, je pourrais le faire pour beaucoup d'autres aussi, évidemment.
Ouais. Alors, quelques petites notes de musique et on te retrouve, encore? Mathieu, encore, pour poursuivre. Alors, sur ces notes du Husky, Mathieu?
Ben, je vais continuer avec la réglementation de la bureaucratie et aussi des lois finalement injustes et discriminatoires. On va parler de l'accès aux garderies pour les enfants de parents à statut précaire. Commencer par une lettre ouverte de l'Association des avocats et avocates en droit de l'immigration. Ça va situer un peu le contexte. Ils écrivent « Des mobilisations populaires au fil des années ont mis au grand jour les traitements discriminatoires subis par des enfants du fait du statut migratoire de leur famille et ont forcé les élus québécois à agir pour concrétiser l'égalité des chances. On va se rappeler qu'en 2017, la loi sur l'instruction publique fut modifiée pour permettre aux enfants n'ayant pas de statut d'accéder gratuitement au système scolaire primaire et secondaire. Puis en 2021, les dispositions législatives et réglementaires nécessaires furent modifiées pour rendre admissible au régime d'assurance maladie ou au régime d'assurance médicaments tous les enfants sans égard à leur statut d'émigration. Hein, on s'en rappelle?
Oui.
Pourtant, le gouvernement Legault a adopté, il y a quelques semaines, le projet de loi 1 visant à modifier la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Dans une lettre ouverte publiée avant l'adoption du projet de loi, 70 organisations ont demandé au gouvernement de redonner l'accès aux services de garde subventionnés aux familles demandeuses d'asile. Depuis près de 4 ans, elles n'ont plus accès aux services de garde subventionnés ni au versement anticipé du crédit d'impôt pour frais de garde. Des députés de l'opposition ont déposé un amendement au projet de loi pour inclure l'accès aux services de garde subventionnés pour tous les enfants. Cet amendement, appuyé par les trois partis d'opposition, a été rejeté par la coalition Avenir Québec. Donc,
des champions.
Encore nos champions. Les demandeurs d'asile tentent le tout pour le tout afin de retrouver cet accès. Attendez un instant, j'enlève mes lunettes. Dans ce procès qui s'est tenu la semaine passée, des avocats en droit constitutionnel et de la Commission des droits de la personne ont contesté devant la Cour supérieure l'interprétation erronée et discriminatoire que fait le gouvernement de règlement sur les services de garde. En 2018, tout a basculé en 2018. Jusque-là, les critères du règlement donnaient accès aux garderies subventionnées à une personne titulaire d'un permis de travail et qui séjourne au Québec principalement afin d'y travailler. Bon, okay, c'est assez bureaucratique, mais c'était clair. C'est une réinterprétation d'un article par Luc Fortin, le ministre libéral de la Famille à l'époque, qui a exclu des demandeurs d'asile. Du jour au lendemain, on n'a plus considéré qu'ils étaient ici principalement pour travailler. Pas pire, hein? Je cite le collectif Bienvenue. Concrètement, ce sont des parents, dont beaucoup de mères célibataires, qui sont pris à la maison sans pouvoir travailler, qui vont recevoir l'aide sociale éventuellement.
Ben, c'est ça, c'est le chien qui mord sa queue. Là.
Ben oui. Certaines vont finir par mettre leur enfant devant la télé chez la voisine à 20 $ par jour. Hein? En plus de compliquer l'accès à l'emploi et à la francisation, cette mise à l'écart a des effets délétères pour les enfants, selon le comité Accès Garderie créé en 2018 pour porter cette cause. D'ailleurs, celui-ci ne comprend pas la volte-face à l'époque en 2018. On pense que la réinterprétation est liée à l'arrivée massive de demandeurs d'asile à cette époque-là par le chemin Roxham.
Ah ouais.
Le comité a d'ailleurs lancé une pétition qui a récolté 13 000 signatures depuis 2018. Ils l'ont redéposée récemment. Ils ont rencontré le ministre caquiste de la famille, Mathieu Lacombe, en 2019. Je cite le comité, le ministre s'est dit sensible à la cause, mais il a renvoyé la balle au fédéral en disant qu'il manquait de financement et ensuite rien n'a été fait.
Ouais, mais il est sensible à la cause.
Oui, il est sensible. Ah, c'est un bon père de famille. Au procès, Maître Cybèle Ataougul, l'une des avocates chargées du dossier, a fait valoir qu'une telle interprétation de l'article est impossible et que la loi à laquelle ce dernier se réfère ne permet pas la distinction entre les personnes qui ont divers statuts. On parle de travail. Et enfin, on dit que c'est contraire aux chartes québécoises et canadiennes pour des motifs discriminatoires basés sur la citoyenneté et sur le sexe, car on sait que ce sont la plupart du temps des femmes qui ont la garde des enfants. Donc, c'est à suivre dans les prochaines semaines parce que ça a eu lieu, le procès, la semaine passée, mais le jugement à la Cour supérieure va être rendu dans les prochaines semaines. Et pour information, ben, c'est le comité accès garderie. La pétition est toujours signable. On peut toujours la signer. Et c'est sûr que ça va rebondir dans les médias, dans l'actualité, dans les prochaines semaines.
Ben merci Mathieu.
Ben merci.
Tu me parles pas des travailleurs domestiques finalement?
Ben écoute, non, c'est un peu short, je vais le garder pour dans deux semaines, il n'y a pas de problème.
Ok.
Ben ça c'est un autre truc de bureaucratie incroyable puis de loi caquiste là, oh mon Dieu.
Ben écoutez, dans ce cas-là, on va s'en aller en musique avec une formation dont je vous donnerai plus de détails, mais au moins vous nommez la pièce qui s'appelle Aborta el Sistema. Je trouve que ça va bien avec la bureaucratie et le système de croche dont on vient de parler.
Penalizar a una mujer por interrumpir su embarazo en caso que peligre su vida es obligarla a elegir entre cometer un delito o morir.
Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar, mi presa por abortar. Muertas por intentar.
Extra, extra, noticias que nos vulneran. El acceso a decidir está prohibido en México. De forma gratuita y segura superarán fúnebres estadísticas de datos trágicos. Es nuestro derecho, no una solicitud. Así que no me importa lo que opines o digas tú. Que les quede claro, en mi cuerpo mando yo. Cierra ya la boca, macho, deja el orgullo.
queremos vivir sin su aprobación. Estos son asuntos sobre mi elección. Su hipocresía no tiene lugar. Nosotras estamos en lucha por la libertad. Esto lo vamos a tumbar, no lo pueden evitar. Somos muchas y seremos más. Y si no es hoy, mañana será. Aborta el sistema, abórtalo ya.
Un sistema de justicia para los que lo compran. Un sistema de injusticia para las que abortan. Es penalización en toda la nación. Libertad a las presas, esto es inquisición. Es mira mi cuerpo, mi decisión. No pueden detenernos, nah. Somos vida, somos muerte. Ancestralmente quizás deban detenernos. Sí, somos luchas, somos fuertes. Con la vida entre los dientes. Pagamos con la vida, salud y libertad. Estas son las consecuencias de la clandestinidad. Mis rimas, mis agallas. Esta boca que no calla. Mi cuerpo, mi campo de batalla. Hoy vamos a florecer, a desobedecer. Leyes que nos quieren desaparecer. Batallones femeninos, poesía de mujer.
Las obras son escalofriantes. Todos los abusos aberrantes. En estos momentos cruciales, nuestros derechos fundamentales se basan en la moral absurda de quien hipócrita legitimiza abusos sexuales, violaciones, embarazos adolescentes, objetivización de nuestros cuerpos por maternidades conscientes, no a las imposiciones sociales, mujeres libres, sobrevivientes. Más rosarios en mis ovarios, más decretos para violentarnos, cambiar el chip y respetarnos.
Muerte, soledad ardiente que emana en lo profundo de tu vientre. Fértil, la mujer latente, ansiosa a continuar su vida. No es como le llaman vulgarmente homicida. Derecho innegable a decidir la letanía de tu propia vida. Esto no es asunto penal y moral, más bien la elección a la conciencia sexual. El aborto no es planificación familiar, es el acto de defensa a la salud física, social y mental. El fatalismo se nota frío, penas impuestas que tantas queman. La religión incompleta para la condena, condiciones infrahumanas. No quiero más para mis hermanas, de frente al sol, mujeres libres, desobedientes, se visualiza marea verde.
No solo somos la marea, somos el océano. Basta si llenas de vida, grandes fuertes, créalo. El futuro es tuyo, woman, así que moldéalo. Vamos a cambiarlo todo y si no lo crees, pues véalo. The future is remain, the rebel is again. Vamos a tomar las calles and we don't have to explain. There's a little, lot of pain enmarcado en nuestra piel. Conquistaremos los derechos que nos negaron ayer. Tanto tiempo y tantas han partido, ¿cuántas? Por obligación han fallecido, tantas. La decisión es mía, porque mi cuerpo es mío. No de la iglesia, ni el estado, ni el marido. No de la iglesia, ni el estado, ni el marido. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. No de la iglesia, ni el estado, ni el marido. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Tanto vida, tanto muerte. Los caminos de la vida no saben dónde nos lleven. Nos obligan a una maternidad restringida. Pelean el derecho a la vida. Quiero saber si los que mueren por el hambre y la guerra tienen una muerte digna. ¿Y qué opinan de la doble moral de su doctrina? Primero se persina y si el tipo no es un macho, pues entonces le castiga. Entonces, ¿dónde queda el respeto al derecho ajeno a decidir sobre mi cuerpo? Sin que me apunten con el dedo, sin que me apunten con el dedo. En contra o a favor, ¿cuál es la solución? En contra o a favor, esa es tu decisión. En contra o a favor, esa es mi decisión. En contra o a favor, esta es mi decisión.
Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presas por abortar, mi muertas por intentar. Mi presas por abortar, mi muertas por intentar.
Las mujeres tienen derecho a decidir.
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On écoutait la pièce Aborta el Sistema, sortie au début 2021 de la formation Batallones Femeninos. C'est une formation collective de rappeuses de la ville mexicaine frontalière de Ciudad Juárez, un lieu où il est difficile d'être femme, nombreux, il y a beaucoup, beaucoup de féminicides, donc les textes dénoncent cette situation-là, dénoncent les stéréotypes machistes, et le groupe milite aussi pour l'autonomisation des femmes. On se tourne maintenant vers le vieux continent, où selon les plus récentes données de l'agence Frontex, les franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Union européenne sont au plus haut depuis 2016. De janvier à mars 2022, l'Agence européenne des gardes frontières et gardes côtes en a détecté plus de 40 300. C'est une hausse de 57 % par rapport à la même période en 2021. Et si on compare au premier trimestre de 2016, où est-ce qu'on était un peu là, au plus fort de la soi-disant crise migratoire de 2015, ces traversées régulières-là avaient atteint, tenez-vous bien, 284 525. C'est énorme.
Ben ouais.
Pour la zone de la Méditerranée orientale, les traversées, les franchissements irréguliers ont plus que doublé. C'est une hausse de 132 % par rapport au premier trimestre de 2021. En particulier via Chypre, où Frontex fait état d'un triplement, c'est-à-dire plus de 5100 au cours des trois premiers mois par rapport au premier trimestre de l'année passée. Ces traversées-là sont surtout effectuées par des migrants, migrantes originaires du Nigeria et du Congo. La route des Balkans, qui est plus beaucoup utilisée, mais quand même l'est encore. Donc, les Balkans occidentaux représentent près de la moitié des franchissements irréguliers avec une hausse de 115 %, donc plus de 18 300 avec un triplement en mars. Il s'agit essentiellement de migrants syriens et afghans. Quant à la route d'Afrique occidentale, elle a connu une augmentation de 70 %. Et qui dit, évidemment, franchissement irrégulier, dit aussi refoulement généralisé.
Ben de plus en plus. Hein.
Alors, dans un rapport publié début avril, le Conseil de l'Europe dénonce cette pratique-là qui s'accompagne de violences graves et systématiques et demande aux États membres de l'Union européenne de mettre fin à ce que le Conseil qualifie de violation des droits humains. Le Conseil affirme que le nombre de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants refoulés aux frontières terrestres et maritimes de l'Union européenne a beaucoup augmenté ces dernières années. Et l'organisation, le Conseil, c'est une institution indépendante qui appartient pas à l'Union européenne. Il parle même d'un phénomène devenu un problème pan-européen systématique. Le Conseil pointe du doigt plusieurs pays en particulier. La Croatie, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Grèce, Chypre, la Turquie, la Bulgarie ou encore la France et l'Espagne. Ces 13 États-là sont vivement critiqués pour avoir renvoyé vers les pays voisins des migrants qui tentaient d'entrer sur leur territoire sans même leur laisser la possibilité de déposer une demande de protection. Fait que c'est vraiment des pratiques de pushback, comme Simon t'a souvent parlé.
Ouais.
Le document s'appuie sur des rapports d'ONG qui ont par exemple dénombré entre 50 et 130 procédures de refoulement par jour pendant l'été 2020 et jusqu'à 170 en octobre de la même année entre la France et l'Italie dans le département français des Alpes-Maritimes. Alors voilà, c'est le triste bilan de l'Union européenne. On reste en Europe avec toi, Simon, pour un tour des actualités et on commence, je pense, par la France, hein?
Oui, je vais parler Belgique, Espagne, Suède, peut-être d'autres si j'ai le temps, mais la France qui, avec les récentes élections, là, je pense que ça sera surprenant de voir un virage bienveillant et accueillant dans les prochaines années. Premièrement, une nouvelle qui semble un peu anecdotique, on est à Calais, mais pas pour des démantèlements de camps de migrants cette fois-ci, mais pour de la nourriture destinée aux migrants qui a été saisie par la police parce que, il y a des zones dans la ville de Calais où, selon un arrêté municipal, c'est interdit de donner de la nourriture.
Ah bon?
Je suis même pas sûr que ça respecte les grandes chartes des droits, bref. Ces arrêtés municipaux sont constamment renouvelés pour viser les zones où se déplacent les migrants. Donc, il y a une genre d'analyse fine de migration interquartier. Ça fait juste emmerder les migrants, autant que les associations qui distribuent aux nourritures, etc., qui doivent adapter leur logistique, dévoiler les points de distribution à la dernière minute. Dans des secteurs où souvent les migrants ne vivent pas, parfois dans des secteurs résidentiels, paisibles, donc qui créent évidemment des frictions avec le voisinage, parfois carrément à l'extérieur de la ville, ce qui est complètement absurde aussi. Il y a une vidéo, ça s'appelle, de manière ironique évidemment, « L'aide humanitaire en France en une vidéo
»,
si vous voulez le voir. On est sur un terrain où campent des migrants, on voit les bénévoles, dont plusieurs d'un certain âge, avec des brouettes remplies de nourriture, se faire encercler par des policiers qui vont arracher les brouettes de leurs mains et partir avec les brouettes, là, pour, je sais pas, peut-être pour remplir les frigos de la gendarmerie, on le sait pas. Pourquoi des brouettes? Ben parce que le terrain où la vidéo a été filmée, ben la ville de Calais a des images, elle a érigé une butte et creusé une tranchée. Il manque juste un pont-levis, ce qui empêche les camionnettes
et des crocodiles.
Ben on n'est pas en Égypte là, mais ce serait des hyènes peut-être en France et de l'eau bouillante là, je sais pas trop. Donc tout ça, c'est genre d'arsenal pour empêcher les camionnettes des bénévoles de se rendre proche des campements de migrants. Donc ils stationnent plus loin et doivent acheminer la nourriture avec des brouettes. De là, ben, c'est facile pour la police de saisir la nourriture. Elle est belle, la France, n'est-ce pas?
Elle est belle.
On s'en va chez sa voisine, la Belgique, dans un autre ordre d'idée qui veut quasiment doubler ses capacités d'expulsion en construisant davantage de ce qu'ils appellent là-bas des centres fermés et des centres de départ. Centres fermés, c'est probablement plus des lieux de transition vers les centres de départ qui, le centre de départ, c'est la dernière nuit à proximité d'un aéroport ou d'un port ou d'une gare. Bref, on passerait de 635 places actuellement à 1145 dans les prochaines années dans ces pseudo-prisons, une mesure qui va coûter 100 millions d'euros, alors qu'il n'y a rien de prévu pour les centres d'hébergement réguliers à dimension humaine qui, eux, sont complètement saturés depuis des années, forçant plein de migrants à dormir sur le trottoir. Le secrétaire d'État à la migration de la Belgique, M. Sami Madi, semblait tout heureux de parler, je le cite, d'un pas de géant dans la politique de retour de notre pays. Petite statistique, le gouvernement belge envoie 24 000 avis d'expulsion chaque année.
24 000?
Ben oui, pour un si petit pays, là. On retourne à des nouvelles plus kafkaïennes, sauce espagnole, cette fois, gros bug informatique dans la région de Valence. 4 000 demandes de statut de réfugié sont disparues. Ici au Québec, c'est Jolin Barrette qui ordonne lui-même de détruire des milliers de dossiers d'immigration, mais en Espagne, c'est la magie de l'informatique qui s'en charge. Toutes les demandes envoyées depuis le 28 janvier ont été complètement effacées et on n'offre aucune alternative aux migrants. Les dossiers continuent de s'empiler, évidemment. On retourne tranquillement vers un mode hybride où les candidatures pourront être déposées en personne, mais il n'y a aucun rendez-vous disponible avant juin, ce qui place des milliers de personnes dans la clandestinité pour quelques mois, même si ces personnes-là ont suivi les procédures. Et on sait ce que la clandestinité peut provoquer sur l'accès au logement temporaire, l'accès aux différentes aides et services de toutes sortes, ou même sur un parcours migratoire dans son ensemble. Ça peut être fatal.
Ouais.
Faut pas oublier qu'on est dans le sud de l'Espagne, dans le sud de la Valence, c'est dans le sud de je crois. Bref, on n'est pas loin de la Méditerranée, donc ça concerne des personnes vulnérables qui ont souvent traversé la mer, passé par la Libye, ou même parfois par les îles Canaries, parce que les parcours peuvent être extrêmement tortueux et compliqués. Et on va finir ce segment européen en Suède, surtout à Malmö et dans le sud du pays où ça a brassé là, des grosses manifs, des émeutes contre l'extrême droite qui ont lieu depuis 2 semaines à peu près. Ça semble pas vouloir se calmer. En fait, ça semblait s'être calmé en début de semaine, mais il y a un leader d'extrême droite danois, même si on est en Suède, souvent accompagné par la police, mais dans ce cas-ci qu'il l'était, là, qui s'est rendu devant une mosquée à Malmö pour brûler un Coran.
C'est toujours une très bonne idée.
Oui, surtout en plein ramadan.
Ben oui.
Donc, ça a repris de plus belle les émeutes. L'auteur de l'autodafé, Rasmus Paludan, le Danois nazi, multiplie ce genre de provocations. Il avait fait la même chose il y a quelques jours devant une mosquée de Stockholm. Il l'avait fait à d'autres reprises dans les dernières années, autant en Suède qu'au Danemark. Donc, 2 semaines de violence, plusieurs blessés. Ça avait débuté pendant le rassemblement d'un parti néo-nazi, Stram Kurs, ou Ligne dure en français, qui, si je comprends bien, est autant établi en Suède qu'au Danemark. Les émeutes, pour l'instant, touchent seulement la Suède. On en veut évidemment beaucoup aux différents niveaux de gouvernement qui autorisent ces actes et discours, ces rassemblements de haine, qui sont extrêmement violents à l'égard de l'islam et de toute forme d'immigration. On blâme la police qui facilite les rassemblements suprémacistes et même qui protège ceux qui les organisent. Et on l'a vu dans le cas de l'autodafé qui accompagnait même la personne qui est allée brûler le Coran devant une mosquée. Et ces groupes, ce parti d'extrême droite, promet de continuer à multiplier ce genre de Charlottesville suédois, pardon, dans les prochains jours. Et on a la première ministre suédoise, Magdalena Andersson, qui tient un discours qui favorise pas du tout l'apaisement en condamnant la violence d'un seul côté et en disant des choses telles que « En Suède, les gens ont le droit de s'exprimer, que leur opinion soit bonne ou mauvaise. » Donc, finalement, elle analyse complètement le discours haineux, raciste, islamophobe, un peu à la Trump, et c'est « There are good people on both sides ». Puis en même temps, on regarde la presse de droite plus mainstream, genre Le Figaro, qui fait des gros titres du genre « Les émeutes sont le résultat d'une immigration trop massive
mm-hmm. ».
Je voulais finir avec une bonne nouvelle en provenance de l'Allemagne, où on apprenait que les agressions envers les réfugiés avaient significativement baissé entre 2020 et 2021. Mais en lisant les rapports, on constate que cette baisse-là est surtout liée aux différents confinements, aux soubresauts de la pandémie et à la baisse d'arrivée de personnes migrantes. Donc, fausse bonne nouvelle, mais je vais essayer d'en trouver une autre d'ici la fin de l'émission.
Je compte sur toi.
Ouais, je suis pas sûr, mais en tout cas, on va essayer.
On poursuit avec toi, Simon, pour d'autres nouvelles, mais plus internationales. Là, je pense que tu vas nous amener en Asie, Moyen-Orient, Nord de l'Afrique.
Sri Lanka, peut-être Ouganda, peut-être Yémen.
Okay.
Le menu est chargé. Hein?
Ouais.
On a manqué une émission il y a quoi, un mois à peu près,
ouais.
Fait que ça s'est accumulé. On commence avec le Sri Lanka, qui vit actuellement une de ses pires crises économiques. On dit la pire depuis 1948. Depuis fin mars, début avril à peu près, il y a des manifestations records avec l'armée appelée en renfort pour fesser dans le tas. Arrestation de masse, deuxième couvre-feu adopté aujourd'hui même, le vendredi 6 mai, alors que les syndicats viennent tout juste de lancer un mouvement de grève générale. On accuse le président Gotabaya Rajapaksa et son frère, le premier ministre de son prénom Mahinda, d'avoir plongé le pays dans cette crise. D'ailleurs, l'ensemble du gouvernement, sauf ces deux-là, a démissionné en bloc début avril. Eux, les deux larrons, prétendent que c'est la faute de la COVID qui a privé le Sri Lanka des retombées économiques du tourisme. C'est vrai qu'il y a 200 000 emplois liés au tourisme au Sri Lanka, mais sur une population de 22 millions, faudrait pas charrier non plus.
Ça.
En deux mois d'évaluation de 40 % du roupie, on est loin des taux astronomiques du bolivar vénézuélien, mais 40 % pour les couches les plus pauvres de la population, ça veut dire le prix des denrées qui double, même qui quadruple dans certains cas. Et c'est dommage parce que c'est vrai que la COVID a augmenté les écarts de richesse et, comme toujours, affecté les plus pauvres et fait basculer beaucoup de monde dans la pauvreté, mais après une série de catastrophes, un conflit qui a pris fin en 2009, qui avait duré plus de 30 ans, qui avait fait 100 000 morts, 300 000 déplacés, un tsunami en 2004 assez dévastateur. Depuis environ 2010, la plupart des indicateurs pointaient vers le haut. Quand on regarde les indices de développement humain de l'ONU, les rapports d'Oxfam, une classe moyenne émergente, le PIB, l'emploi, l'éducation, tout ça en progression, sans nécessairement que la répartition soit équitable, évidemment. Mais la crise actuelle vient pratiquement effacer les acquis, là, les gains des 10-12 dernières années. Donc de là la frustration actuelle. Et en plus de tout ça, depuis le début des manifestations monstres en mars, il y a une pénurie de carburant qui vient accentuer tous ces problèmes-là, qui crée des pénuries, l'inflation dont on parlait, ben, qui est mondiale en fait, sans compter les services publics qui sont en train de s'effondrer. Donc la vie redevient extrêmement difficile pour les Sri Lankais qui ont pu rêver pendant quelques années à un avenir meilleur et qui voient maintenant leurs acquis s'effondrer, sauf pour les riches et les deux frères Rajapaksa, qui s'accroche au pouvoir avec le soutien de l'armée. Donc, à suivre, il faut dire que dans nos prévisions 2022, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. On avait parlé de certaines crises majeures qui se dessinaient, mais le Sri Lanka, ça sort un peu de nulle part. Autre nouvelle, on s'en va en Tunisie. Cette fois, des réfugiés, la plupart d'origine soudanaise, qui ont décidé de camper devant les bureaux du Haut Commissariat pour les réfugiés à Tunis pour réclamer leur évacuation du pays. Ils veulent donc être réinstallés puisqu'ils ont déjà obtenu le statut officiel de réfugiés en Tunisie. Les réinstallations, très peu de pays accordent ça. On est déjà très, très frileux avec les premières installations,
ouais.
Avec l'accueil des réfugiés dans un premier pays d'accueil. Alors, imaginez où se situent les réinstallations dans l'ordre de priorité des différents ministères de l'Intérieur à travers le monde. On avait déjà vu un sit-in semblable. Je crois que c'était en Libye.
Oui.
Je sais pas si c'était devant les bureaux du HCR.
Oui, c'était devant les bureaux du HCR aussi.
Je me rappelle pas quel résultat ça avait donné. Est-ce qu'il y avait eu réinstallation? Je crois que non. Mais ça avait quand même poussé certaines instances
Mathieu bouger, a une réponse, je pense.
Oui,
Mathieu.
Ben, à mon souvenir, ces gens-là demandaient à retourner chez eux. Parce que c'était des gens de l'Afrique subsaharienne qui étaient pris en Libye dans la guerre puis dans les trafics, fait qu'ils voulaient retourner chez eux.
C'est ça.
Ils ont finalement analysé quelques avions. Ils en ont finalement analysé quelques-uns.
Ils demandaient de l'aide, en réalité. Ouais. Donc voilà, là, en Tunisie, ben le sit-in a toujours lieu en plein quartier chic des ambassades à Tunis. Ça doit clasher un peu de voir ces quelques 150 personnes qui dorment et passent la journée sur le sol, en pleine rue, avec leurs tentes et leurs effets personnels. Faut dire que faute de financement adéquat, les ressources manquent. Plusieurs ont été expulsés des foyers où ils habitaient, évidemment, il y a beaucoup de pression sur ces foyers-là parce que la migration est constamment alimentée aussi. Donc, ils vivent dans la rue depuis plusieurs mois, sans emploi, avec des petites jobines précaires, parfois avec enfants, et jugent avec raison, on pourrait dire, que la Tunisie n'est pas en mesure de garantir leurs droits fondamentaux. Donc, comme je disais, à ce jour, le campement est toujours là. Le SCR dit ne pas pouvoir faire grand-chose puisqu'il est submergé, ce qui est sûrement vrai, mais l'excuse qui revient le plus souvent, c'est que le Haut-Commissariat priorise ces cas selon des analyses de sécurité et que la Tunisie est considérée comme un pays sécuritaire. Donc, à ce niveau-là, le Haut-Commissariat ne voit pas d'enjeu sécuritaire, donc ne donne pas raison aux manifestants, au campement. Donc, ça sent l'impasse, à moins qu'un autre État décide de leur ouvrir ses portes, ce qui serait assez surprenant. Je vais terminer avec le Tigré, lueur d'espoir au Tigré. Les premiers signes d'un apaisement en un an et demi de conflit, il y a des camions de denrées, d'aide alimentaire. Il y a des troupes des deux côtés, gouvernementales et rebelles, qui se retirent. On ne sait pas encore, c'est assez nébuleux si c'est des accords négociés à la pièce ou c'est des retraits stratégiques, mais selon la plupart des observateurs, c'est les premiers signes tangibles et sérieux d'un vrai apaisement. Donc, gardons espoir. Et dernière petite chose, je vous recommande un article de pivot.québec qui s'appelle « Le bois hors brun des populations réfugiées d'Ouganda ». C'est super intéressant, puis c'est plein de magnifiques photos.
Ben merci Simon pour ce plaisir. Tour rapide mais touffu.
Oui, et escamoté un peu.
On part en musée.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les Apatrides Anonymes. On vient d'entendre la formation Étrang de l'air, originaire du Niger, avec leur pièce Tchingolen, qui est tirée de leur album Agadez, paru en février et qui se trouvait au palmarès Globe de Choc la semaine passée. C'est un groupe qui existe depuis 25 ans, qui est formé de membres d'une même famille, des cousins et des frères, et qui ont commencé en jouant dans les mariages de village en village. Dans la foulée des manifestations du mouvement Black Lives Matter, on a vu apparaître un écusson controversé sur l'uniforme de certains policiers aux États-Unis, mais aussi de plus en plus au Canada.
Ouais.
Il s'agit du drapeau du Canada traversé par une ligne horizontale bleue qui est associée à un slogan réactionnaire des flics, Blue Lives Matter. Certains l'assimilent à un symbole raciste, alors que la police affirme que ça fait juste rendre hommage à ces agents morts dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ici, au Canada, au début avril, la commission de police de Calgary avait décidé d'interdire le port de cet emblème-là, justement en raison de ses connotations racistes, ce qui a entraîné une levée de boucliers de la part de deux syndicats, l'Association des policiers de Calgary et celui des officiers supérieurs de la police de Calgary. Le premier a notamment appelé ses membres à défier ouvertement le nouveau règlement et, selon la commission, il aurait même distribué une grande quantité d'écussons portant la ligne bleue en réaction à la décision. La commission de police de Calgary dit être ouverte à mettre en place avec les syndicats un autre emblème là pour discerner les valeurs originelles de la fine ligne bleue des mouvements racistes qui l'ont depuis récupéré. Mais bon, après avoir suspendu pour deux semaines l'interdiction du port de la bande bleue sur les uniformes des policiers, le chef de la police de Calgary, Mark Newfield, a annoncé que ses agents pouvaient continuer à porter l'écusson sans être sanctionnés. Et ce, indéfiniment, tant que les discussions avec la commission se poursuivaient ou étaient pas, seraient pas arrivées à une conclusion. Édifiant. Et pendant ce temps-là, ben au Québec, la police a lancé une opération séduction. Il y a l'Association des directeurs de police du Québec, l'ADPQ, et les syndicats policiers qui s'unissent pour redorer leur image avec une série de 10 capsules vidéo qui vont être diffusées dans la prochaine année sur les réseaux sociaux.
Il n'y a pas de voiture électrique là-dedans?
Non. Je cite Pierre Brochet, président de l'ADPQ. J'ouvre les guillemets. Il est temps que les Québécois voient le travail quotidien de nos policiers. Vous verrez ce qui se passe dans le quotidien, ce qu'on ne voit jamais, parce que cela se passe bien. Ben oui, c'est ça. Comme s'il y avait pas déjà assez de shows de télé sur le travail de la police, que ce soit des fictions ou des émissions qui montrent des policiers dans leur travail quotidien, justement. D'ailleurs, allez lire le texte de Francis Dupuy-Déry paru sur Ricochet.
Ah oui.
Dans la foulée de l'hystérie collective. Oui, c'est Mathieu?
Pivot.
Ah oui, c'est Pivot, excusez-moi. Bon, écoute, nos amis. On a beaucoup d'amis. Donc, paru sur Pivot dans la foulée de l'hystérie collective qui a entouré la fin de District 31. Je conclue en disant qu'on espère que ces capsules-là vont être meilleures que celles que le gouvernement du Québec a produites en 2021 sur le racisme. Alors voilà, ça met la table pour toi, Simon, qui nous parle aussi de racisme très ordinaire, mais aussi systémique.
Et aussi canadien. Donc, plusieurs sujets variés, fusillades, ours, forces armées canadiennes. Il manque juste Tim Hortons pour vraiment être... on parle d'une minute du patrimoine, en tout cas. les forces armées canadiennes qui se font encore taper sur les doigts depuis des décennies, en fait, qu'elles se font taper sur les doigts. Pas juste pour sa culture du viol, mais sur le racisme un peu partout à l'intérieur de ces différentes instances. Il y a le groupe consultatif de la ministre Anita Anand de la Défense nationale sur le racisme systémique. Attendez, c'est mélangeant. En tout cas, il y a le groupe consultatif, finalement, qui se penche sur la discrimination dans l'armée, qui vient de publier un rapport assez affligeant. Je cite, les recommandations des 20 dernières années pour faire de l'armée un endroit inclusif et exempt de racisme n'ont pas été appliquées adéquatement quand elles n'ont pas été carrément ignorées.
ça va bien.
C'est clair. Le groupe demande de créer une instance dont la mission sera d'assurer la mise en œuvre des recommandations qui sont accumulées au fil des années. Peut-être faire le ménage là-dedans aussi. Ça doit se recouper des fois. Et aussi, de manière plus générale, que la relation avec les nations autochtones soit redéfinie. Ce qui, pour l'instant, s'est limité à un peu de recrutement chez les personnes autochtones. Mais ensuite, je recite le rapport. Les programmes destinés aux peuples autochtones ressemblent presque à un effort pour les faire entrer afin qu'ils et elles puissent être assimilés au moule militaire traditionnel sans autre considération pour leur diversité culturelle.
C'est fait avec beaucoup de délicatesse, comme on peut voir.
Oui. Ben, de toute façon, j'imagine très mal le caporal machin être sensible. Bref. L'autre mandat du groupe consultatif, en plus d'examiner le racisme systémique et la question autochtone, c'est de se pencher sur l'extrême droite au sein de la Le rapport indique que les efforts actuels sont limités et déficients et qu'il faudrait vraiment que la question soit prise beaucoup plus au sérieux.
Eh ben, OK.
Sinon, je vous parlais d'ours.
Donc, une note sur le bulletin, un gros zéro.
Un gros zéro. En plus, ça, c'est seulement trois des sujets que...
Sur lesquels le comité se penche.
C'est ça. Puis le comité, le groupe consultatif produit d'autres rapports qui sont toujours aussi négatifs, finalement. Je vous parlais d'ours en intro de segment. C'est pas drôle du tout. Une attaque au répulsif à ours dans une mosquée de Mississauga en pleine heure de prière avec plein de fidèles de tous âges, dont des mineurs, tout le monde traumatisé. L'agresseur a été maîtrisé par les nombreux fidèles jusqu'à l'arrivée de la police. L'agresseur disait qu'il voulait tuer des terroristes. Donc, je ne sais pas s'il se rend compte que c'est lui le terroriste. Un autre illuminé en mission divine qui, jour après jour, année après année, s'abreuve de propagande islamophobe dans les médias mainstream populistes qui existent pas juste au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Je crois à peine le lendemain, toujours dans le Grand Toronto, toujours en plein ramadan, 5 blessés graves par des tirs à l'aveugle à partir d'une voiture à la sortie d'une prière à Scarborough, juste à côté de Mississauga. Il y a eu plein d'autres incidents islamophobes à la même période, pas tous aussi dramatiques, heureusement, mais ça nous rappelle qu'il y a une loi provinciale en Ontario qui est en attente d'adoption. Le projet de loi 86, qui était en solidarité avec cette famille musulmane de London qui s'était fait volontairement happer par un camionneur à un arrêt d'autobus. Ça avait été adopté en première lecture, mais c'est actuellement au point mort au comité permanent. C'est vrai que ça stagne depuis des semaines et des semaines. La loi créerait des zones de sécurité autour des lieux de culte, financerait les écoles dans leur lutte contre le racisme, interdirait les manifestations qui incitent à la haine et empêcherait les groupes suprémacistes blancs de s'enregistrer en tant qu'association caritative. Ou en tant qu'association, point final.
Ouais, c'est ça.
Donc, on sent l'impatience. De plus en plus de monde dit au gouvernement Ford de se déniaiser, mais là, c'est la campagne électorale qui vient de commencer en Ontario et M. Ford a d'autres choix à fouetter, semble-t-il, économie. Et je crois pas qu'il va parler beaucoup plus de vivre ensemble.
Non, c'est
d'ici l'élection le 2 juin. On verra si les autres partis ou certains groupes de pression arrivent à ramener ça à l'agenda. Parce que la haine en Ontario, c'est un enjeu qui semble être en assez forte progression depuis quelque temps.
Mm.
Voilà pour racisme au Canada.
Ben merci, Simon.
Ben fait plaisir.
Quelques notes de musique encore et on retrouve Mathieu de l'autre côté. Alors Mathieu, tu nous parles, toi, tu nous ramènes, on retraverse l'Atlantique en fait et tu nous amènes au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, oui, mais je pourrais vous amener au Rwanda aussi, mesdames et messieurs, vous allez voir le lien. C'est particulier, ça, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est quand même un des événements importants des derniers mois au niveau des enjeux de migration en Europe et même dans le monde. Des demandeurs d'asile arrivant de façon irrégulière au Royaume-Uni via la Manche vont être envoyés au Rwanda, selon l'accord controversé annoncé le 14 avril par Londres et Kigali. Et il est rétroactif au 1er janvier, d'ailleurs, cet accord-là.
Oh, OK.
Quand même. C'est un pas de plus dans la ligne dure de la politique migratoire britannique. Londres a signé un accord de 144 millions d'euros annuellement avec le Rwanda pour que Kigali accueille sur son sol des migrants de diverses nationalités arrivant au Royaume-Uni. L'annonce a été faite à l'occasion d'une visite de la ministre anglaise de l'Intérieur, Priti Patel,
ma
à
préférée.
Kigali.
Non, non, c'est oui. ma préférée.
Hey, c'est la mienne. Cet accord avec le Rwanda n'est pas étonnant. Madame Patel promet depuis des années d'externaliser le traitement des demandes d'asile vers des pays tiers, Londres ayant essayé de négocier en vain avec l'Albanie et le Ghana.
Tous des exemples.
Oui, tout à fait. D'accueil inconditionnel. Oui. Concrètement, l'accord ne concernerait que les jeunes hommes arrivés illégalement, de guillemets, sur le sol britannique. Ils seraient envoyés par avion sur le territoire rwandais. Les migrants verraient alors leur demande d'asile traitée dans ce pays d'Afrique de l'Est et seraient encouragés à s'y installer. Il ne s'agirait donc plus seulement d'externaliser le traitement, mais la demande en elle-même, puisque les migrants resteraient au Rwanda, à 6000 km de la Grande-Bretagne. Le Rwanda assumerait la responsabilité de ces demandeurs d'asile, même s'ils obtiennent la protection de l'Angleterre. En tout cas, c'est particulier.
C'est bien bizarre.
Ça, je vous dis, c'est un drôle d'événement et un gros événement en même temps. Pas question de les renvoyer ensuite vers Londres. Ils bénéficieraient d'un logement à long terme au Rwanda. Le gouvernement de Kigali a déclaré que les migrants auraient droit à une protection complète en vertu de la loi rwandaise, à un accès égal à l'emploi et à l'inscription au service de santé et de protection sociale.
OK.
Oui, c'est sûr.
c'est super étrange.
Oui, attendez, c'est pas fini, là. Cela fait des années que Londres multiplie les tours de vis pour durcir ses lois migratoires.
Ouais, censé.
En juillet dernier, la ministre Patel avait essayé de durcir les peines de prison contre les personnes qui entrent ouais. illégalement. Le parquet britannique avait finalement interdit de poursuivre les migrants arrivés par la Manche. Elle souhaite aussi autoriser les gardes-côtes à repousser hors des eaux britanniques les pushbacks
ouais.
Et aussi durcir les conditions d'accès au regroupement familial et aux prestations sociales. Ouais. Le Royaume-Uni avait déjà pris des mesures drastiques concernant les mineurs non accompagnés en 2016.
Ouais, ça,
avec,
je vous en avais parlé.
En mettant fin à l'amendement Dobbs.
Ouais.
Mais là, évidemment, c'est plein d'opposition. Tout le monde s'arrache les cheveux, finalement, autant en Angleterre, en Europe qu'au niveau international. Je cite le HCR, les personnes fuyant la guerre, les conflits, les persécutions mérite compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises.
Ben oui.
Amnesty souligne le bilan lamentable en matière de droits humains du Rwanda. Stanford Hall, une autre ONG, dénonce une initiative inhumaine, irréalisable et très coûteuse, recommandant plutôt d'ouvrir des voies d'entrée au Royaume-Uni plus sûres car celles qui existent sont très limitées. C'est un peu ce qu'on sait. Hein. C'est une île, entre ouais. autres. Sinon, il faut savoir aussi que dans le cadre de ce plan qui vient compléter une vaste loi sur l'immigration actuelle au Parlement, parce que c'est une partie d'une vaste loi avec toutes sortes de demandes.
Ben, c'est la réforme là, de
c'est
la loi
réforme de l'immigration et des frontières,
c'est
exactement, tu as parlé. Le gouvernement a confié dès le 14 avril le contrôle des traversées légales de la Manche à la marine militaire. C'est plus les gardes-côtes qui sont là depuis le 14.
Okay.
C'est la marine militaire, qui est des vaisseaux militaires qui arraisonnent okay. les pour attraper le plus de monde possible. Et finalement, pas finalement, là, je pourrais en parler longtemps, mais la population britannique non plus ne semble pas derrière ce projet. Dans un sondage récent, seulement 35% disent soutenir la mesure là, au niveau des Anglais.
La mesure spécifique là, par rapport au Rwanda, c'est
exactement,
ça?
Exactement. L'accord, là, le fameux okay. accord. Ouais. Excuse-moi, je n'ai pas précisé. En plus, Human Rights Watch a dit que le Royaume-Uni a directement fait part de ses préoccupations concernant le respect des droits de l'homme au Rwanda dans les derniers mois et a accordé l'asile à plusieurs Rwandais qui ont fui le pays.
Mais voyons donc, c'est
et
complètement...
Non, mais c'est
écoute,
fourrette.
Ben, ils ne se parlent pas entre ministères.
C'est différents niveaux. Là. Mais je pense que ce n'est pas les mêmes intérêts. Donc, rendre les choses plus dures n'empêchera pas les gens de prendre des risques, évidemment, pour se rendre. Ça va signifier que des personnes traverseront la Manche dans des conditions moins qu'idéales, mettant leur vie en danger. Évidemment, cet accord-là contrevient au droit d'asile et à la Convention de Genève, dont le Royaume-Uni est signataire. Parfait. Parfait, merci du signe, Marie-Ève. Mais dans les derniers jours, les passages n'ont pas faibli. Il y a eu 1000 personnes en 3 jours qui sont arrivées en Angleterre par la Manche. C'est un des records des derniers mois. Selon l'organisme Channel Rescue, ce que prévoit cette mesure, c'est de faire en sorte que le chemin que vous avez pris pour entrer au Royaume-Uni détermine la recevabilité de votre demande d'asile. C'est une criminalisation des passages, en fait. Pourtant, ce n'est pas illégal de traverser une frontière, évidemment, pour faire une demande. Écoute, je vais finir avec Maria, ça vaut la peine. Là.
Une citation? Non?
Non, c'est que c'est pas gagné, ça va être contesté, évidemment. C'est pas fait, cet accord-là, même s'ils veulent l'appliquer rapidement. Parce que les associations ont déjà obtenu une importante victoire cette semaine. Le gouvernement a abandonné son projet de pushback hors des eaux britanniques des embarcations. Madame Patel a fait marche arrière quelques jours avant que la proposition ne soit contestée devant les tribunaux par les associations.
Okay.
Donc, ça indique que cette réforme-là générale, y compris le plan avec le Rwanda, va être contestée dès la semaine prochaine par des ONG.
Non, c'est ça.
Donc, c'est pas réglé, même s'ils vont essayer le plus rapidement possible de l'appliquer. Puis le Rwanda est super content d'avoir 144 millions d'euros par année. Avec notre grand ami Paul Kagame, un grand démocrate.
Il va s'en garder une petite cote, peut-être.
Oui, de voir depuis 30 ans, donc voilà.
Merci Mathieu pour cette nouvelle. On pourra en parler d'ailleurs aussi. Ouais.
On en parlera pour les suivis, ça vaut la peine. Là.
Ouais. Merci.
Merci à toi.
Avant de clore l'émission, quand même, on va finir sur la bonne nouvelle de la semaine, histoire justement de finir sur une note un peu positive et moins, je sais pas comment qualifier certaines des nouvelles qu'on a eues.
Délirante,
ouais. Peut-être vous vous souvenez de cette histoire-là où un grand-père autochtone et sa petite-fille avaient été arrêtés par deux policiers dans une succursale de la banque BMO à Vancouver.
Oui.
En 2019. Petit rappel quand même là pour auditeurs, auditrices, pour rafraîchir la mémoire. Le 20 décembre 2019, Maxwell Johnson, qui est membre de la Première Nation de Heiltsuk, se rend à la BMO pour ouvrir un compte pour sa petite-fille de 12 ans. Ils présentent leur carte de statut d'Indien émise par le gouvernement. Il présente son certificat de naissance, sa carte médicale, aussi celle de la jeune fille. Et là, ben, une employée de la banque s'est alors montrée méfiante et a décidé d'appeler le 911. Ils ont par la suite été menottés puis relâchés dans l'heure qui a suivi l'arrestation. Et bien là, au terme, après 2 ans, là, il y a eu une enquête disciplinaire. Et donc, au terme de cette enquête-là, le juge a décidé de suspendre les deux policiers qui ont, selon lui, fait usage d'une force excessive, ajoutant que ces derniers ont été arrêtés et menottés sans motif raisonnable et probable. Je cite le juge à la retraite responsable de l'enquête. Deux personnes vulnérables autochtones ont inutilement été mises dans une situation traumatisante et effrayante. Elles ont eu le sentiment d'avoir été traitées injustement par la police. L'ex-juge exige que les deux policiers suivent à nouveau la formation policière et demande qu'ils s'excusent pour leur comportement. La Première Nation de Heiltsuk les a d'ailleurs invités sur leur territoire pour présenter des excuses. Et depuis, bon, il y a le service de police de Vancouver qui a modifié sa politique sur l'utilisation des menottes par ses agents, mais bon.
Pas au moins 10 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait le tour, en fait, bon, pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM aussi du 107,9, justement, de Radio Victoria le dimanche à 14h et le mercredi à 13h30. Vous pouvez aussi nous écouter en balado, les émissions que vous avez manquées, en vous rendant sur notre page ou sur le site de choc.ca, le nouveau site, ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et nous suivre sur notre page
FB.
Voilà. Mon Dieu, ça manquait d'enthousiasme. Merci. Merci Mathieu et Simon pour votre travail formidable.
Merci Maria pour l'animation merveilleuse.
Ben oui, je suis encore sous le choc. Là.
On va se laisser en musique avec la pièce Corrupteur du Power Duo Gros Mené. Des légendaires Fred Fortin et Olivier Langevin. C'est une pièce qui est tirée de leur dernier album Pax. Je suis pas sûre de comment c'est parce qu'il est écrit comme si c'était en latin, bonhomme, mais je pense qu'on peut dire Pax et bonhomme, paru en avril et qui occupe la 9e position du palmarès francophone de choc. Il y a quelques spectacles qui sont prévus au Québec là prochainement, dont un à Montréal au Club Soda le 10 juin.
Déjà complet.
Mathieu.
J'ai manqué mon coup.
Oui. Alors, on se laisse sur ces notes et on vous souhaite bonne soirée et on se retrouve dans 2 semaines.
Oui, bonne soirée. Dans 2 semaines au mois de mai.
Ben oui.